Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Yann est rejoint par deux invités, Arnaud et Antoine. Tous deux sont les membres actifs d'une église à Mulhouse, en France.
Nous commençons donc aujourd'hui une nouvelle série de discussions sur le thème de la famille et notamment sur les relations dans le couple. Au cours de ces discussions, je ferai appel à deux invités. Arnaud se penchera sur ce que dit la Bible à ce sujet et Antoine cherchera à en tirer des leçons pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Je pose à Antoine mes premières questions. Pourquoi ce thème du mariage est-il si important et pourquoi on parle lors d'une émission telle qu'Espérance aujourd'hui?
D'abord, le mariage permet à une personne de vivre la relation la plus importante et la plus intime jamais vécue avec une autre. Ensuite, le mariage préoccupe beaucoup de personnes. La plupart de ceux et celles qui ne sont pas mariés aspirent à l'être et désirent réussir leur mariage. Malheureusement, pour beaucoup, le mariage ne répond pas toujours à leurs attentes et ils sont déçus. Cette relation qui devrait réjouir et contribuer au bien-être et à l'épanouissement est quelquefois source de conflits et de tristesse. Beaucoup sont donc préoccupés par les soucis et les difficultés qu'ils vivent dans leur couple et ils désirent les résoudre afin de trouver une issue favorable à leurs problèmes. Quelle que soit votre préoccupation à ce sujet, nous croyons que la Bible a quelque chose à dire, qu'elle donne des conseils et apporte des réponses à vos interrogations.
Justement, Arnaud, que dit la Bible sur ce sujet si important? Par où voulez-vous commencer?
Je voudrais rappeler que le mariage a été institué par Dieu. Il l'a établi pour répondre aux besoins et aux aspirations des hommes et des femmes. Il l'a institué pour leur épanouissement.
Et où pouvons-nous lire cela dans la Bible?
Il faut bien sûr remonter au tout premier livre de la Bible, appelé Genèse.
Le mot « Genèse » signifie justement « les origines », je crois.
C'est exact. Et tout au début du livre de la Genèse, nous trouvons deux récits qui se succèdent et qui relatent la création du monde. Et je propose que nous lisions les extraits qui traitent de notre sujet, le mariage.
Je vous en prie, de quel texte s'agit-il?
Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ensuite, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »
Donc, tout au début, Adam, le premier homme, était seul, il n'avait pas de femme.
C'est juste. Et Dieu fit ensuite passer tous les animaux devant Adam, qui ne trouva parmi eux pas d'aide qui fût son vis-à-vis. C'est pourquoi le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et créa à partir d'elle une femme. Écoutez maintenant ce qu'Adam déclare. « Voici bien cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. » Adam a enfin trouvé la personne avec laquelle il désire partager sa vie, la personne qui correspond à ses attentes, à ses aspirations. Et l'auteur du texte biblique en conclut au verset 24 « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. »
Merci Arnaud. Je voudrais revenir sur un point qui me surprend.
Lequel?
Adam a éprouvé un sentiment de solitude alors qu'il marchait en parfaite communion avec Dieu. Dieu ne le comblait-il pas?
Cela peut étonner, effectivement. Nous devons conclure que non seulement Dieu nous a créés pour marcher avec lui, mais aussi pour entretenir des relations avec nos semblables, en particulier avec notre conjoint ou notre conjointe, avec lequel ou laquelle nous bénéficions d'une relation privilégiée. Alors si les hommes ne peuvent accomplir ce pour quoi ils ont été créés, il est normal qu'ils se sentent insatisfaits. Et le récit de la Genèse montre que Dieu pourvoit en tout aux besoins de l'homme. Le monde naturel lui offre de quoi boire et manger, et Dieu lui-même pourvoit à ses aspirations spirituelles. Enfin, avec la femme, Dieu pourvoit à ses désirs relationnels, l'amitié, la sexualité, le partage des tâches.
Antoine, voulez-vous ajouter quelque chose ?
Oui. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ressentent un profond sentiment de solitude, soit parce qu'elles n'ont pas d'amis, soit parce qu'elles ont été déçues dans leur relation avec les autres. Le fait de renouer une relation spirituelle avec Dieu peut combler en partie cette solitude. Mais il est aussi légitime de vouloir se marier et de vouloir réussir son mariage. C'est la voie naturelle des choses et une grâce, un privilège donné par Dieu.
Qu'en est-il alors pour les célibataires ?
Si Dieu a destiné les hommes et les femmes au mariage, nous ne devons pas pour autant mépriser les célibataires. Certains choisissent de ne pas se marier pour des raisons qui leur sont propres. D'autres aimeraient sortir du célibat, mais n'y parviennent pas pour diverses raisons. De telles personnes ressentent la solitude, plus ou moins intensément, et doivent trouver ce qui, dans la vie, favorisera leur épanouissement différemment. Cependant, cela ne les aidera pas si on les montre du doigt ou qu'on se moque d'elles, comme si elles étaient différentes. Nous devons au contraire les accepter telles qu'elles sont et les aider.
Merci Antoine. Alors Arnaud, pouvez-vous, à partir des textes bibliques que nous avons lus, nous donner une définition du mariage ?
Oui, reprenons le texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Tout d'abord, la parole de Dieu parle d'une union entre un homme et une femme. Ainsi, le dessein de Dieu exclut l'homosexualité, c'est-à-dire l'union entre deux personnes du même sexe, et la polygamie, l'union entre un homme et plusieurs femmes.
La polygamie est pratiquée dans plusieurs parties du monde, me semble-t-il.
Oui, mais aujourd'hui, parlons de la situation idéale voulue par Dieu, c'est-à-dire de l'union entre un homme et une femme qui, selon la Bible, ne font qu'un par le mariage.
Et que cela signifie-t-il ?
Cela signifie d'abord que l'homme et la femme doivent couper certains liens avec leurs parents afin de fonder une nouvelle famille. Cela signifie surtout que ces deux personnes vont commencer une union conjugale qui durera toute leur vie. Il s'agit aussi d'une union exclusive, c'est-à-dire que l'homme et la femme devront rester fidèles l'un à l'autre durant toute leur existence. Enfin, devenir une seule personne signifie aussi qu'il s'agit d'une union sexuelle. Les relations sexuelles doivent être vécues au sein du mariage et non ailleurs.
Antoine, voulez-vous ajouter quelque chose ?
Oui, je pense qu'il est important d'insister sur ce dernier point, surtout de nos jours avec l'épidémie du sida qui fait ses ravages dans de nombreux pays. Dieu veut que l'on s'abstienne de toute relation sexuelle en dehors du mariage. La meilleure façon de se protéger du sida ou d'autres maladies est de rester fidèle à son époux ou à son épouse.
Nous remercions Antoine et Arnaud pour leur participation aujourd'hui et nous reprendrons nos discussions de ce thème du mariage la prochaine fois. Lors de notre méditation biblique, nous allons parler de l'amour de Christ envers l'Église. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à 25. Ensuite, notre nouvel invité, Jean-Marc, qui est responsable d'une église dans le sud de la France, nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église.
L'apôtre Paul compare le mariage à la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Il désire ainsi nous inciter à mieux aimer notre conjoint et notre conjointe. Lors de ces prochaines courtes méditations, je vais m'intéresser à la question « Comment Christ aime-t-il l'Église ?» La première chose à noter est celle-ci « Christ est le chef de l'Église ». Quelle est votre expérience des chefs ou des responsables dans ce monde ? Un chef est celui qui occupe une position d'autorité. Il peut être chef de village ou chef de tribu, chef d'entreprise ou bien chef de gouvernement. Un chef doit veiller sur ce qu'il dirige. Il doit prendre des décisions et remplir ses engagements. Malheureusement, certains chefs abusent trop souvent de leur position et de leur pouvoir. Ils peuvent devenir autoritaires et même tyranniques, se servir des autres pour arriver à leurs propres fins, opprimer et exploiter les faibles, ceux qui sont vulnérables. Pour cette raison, quand la Bible déclare que le Christ est le chef de l'Église, certains peuvent penser au mauvais chef qu'ils connaissent. Cependant, Christ n'est pas un mauvais chef. Il aime l'Église dont il est le Sauveur. Il n'est pas venu pour écraser davantage les faibles, mais pour les relever et les fortifier. Il n'est pas venu non plus pour nous exploiter, mais au contraire, pour nous enrichir sur le plan spirituel en nous faisant connaître les réserves inépuisables de sa grâce. Christ est un chef qui fait preuve de compassion et de miséricorde. Ayant à cœur les intérêts de l'Église, il déploie son pouvoir et son amour pour elle afin d'en assurer le bien-être. Comme chef de l'Église, nous lui devons obéissance. Si c'est par crainte de subir leur cruauté que nous obéissons aux chefs tyranniques en nous soumettant à leurs ordres, ce sera par contre volontiers que nous obéirons aux chefs justes et généreux parce qu'ils nous inspirent confiance et affection. Jésus-Christ est le chef qui nous aime parfaitement, et notre obéissance pour lui devrait jaillir de nos cœurs comme une offrande de reconnaissance née de la certitude que Jésus connaît nos besoins mieux que quiconque. Nous laisser diriger par lui est notre bien. Je voudrais apporter quelques pensées à nos auditeurs mariés. Selon le texte biblique que nous avons lu, le mari est le chef de la femme. Mais le mari doit prendre exemple sur Christ. Un mari ne doit donc pas traiter sa femme comme simple objet, ni utiliser ce texte biblique pour réduire sa femme à l'état d'esclave. Non, en tant que chef, le mari doit prendre soin de sa femme et mettre tout en œuvre afin de répondre à ses besoins. Son amour pour elle doit faire naître, dans une relation de confiance, une obéissance reconnaissante issue d'un cœur sincère.
Dans un monde où l'amour semble trop souvent absent, où la violence et l'égoïsme sont si présents, nous avons besoin de nous approcher de Jésus-Christ, véritable source d'amour. Son exemple est à suivre, non seulement dans notre vie de couple, mais aussi dans nos relations envers notre prochain et même notre ennemi.
Pour en apprendre davantage sur le mariage d'un point de vue biblique et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et à bientôt.